nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes cet incroyable le lundi 29 mars, il est 8h30, avec moi Corto, salut Corto.
Eh bien le bonjour Ben, c'est, bonjour
c'est,
Marie.
C'est cool les démarrages comme ça en mono, c'est génial.
Ouais, c'est super.
Au programme de cette matinale, et tu l'as dit Corto, nous sommes avec Marie, bonjour.
Bonjour.
Tu as été enseignante dans une école Montessori, tu es venue nous voir parce que tu as envie de faire une voire des émissions sur les pédagogies alternatives, c'est super. C'était donc l'occasion, puisque ce sujet nous intéresse ici à Radio Bartas, bah de faire une matinale pour ça. Ce sera l'occasion du coup de réécouter Nathalie qui est prof et directrice de l'école de Vébron et qui prodigue une pédagogie alternative. L'occasion faisant le larron, on réécoute ça en deuxième partie d'émission. Il y aura de la musique évidemment comme d'hab, mais on commence si tu veux bien Corto par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. La répression est montée d'un cran ce samedi 27 mars en Birmanie. Selon les Nations Unies, 107 personnes, dont 7 enfants, ont été tuées lors d'une nouvelle série de manifestations pro-démocratie dans tout le pays. Les médias locaux font eux état de 114 morts. Il s'agit du plus lourd bilan depuis le coup d'état de l'armée dans le pays le 1er février dernier. Plus de 423 personnes auraient perdu la vie dans le conflit depuis cette date, selon l'Assistance Association for Political Prisoners, AAPP, une ONG locale. Samedi, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les habitants qui manifestaient en réponse à la journée des forces armées. Ce gigantesque défilé militaire, organisé devant le chef de la Tat Madao, qui est l'armée birmane, désormais chef de la junte au pouvoir. Il s'agit aussi d'une tentative de légitimisation pour le pouvoir après des semaines de contestation du putsch, notamment dans la jeunesse, c'est ce que révèle le journal indépendant birman Frontier Myanmar. Alors attention, tenez-vous bien, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a dézingué. Tirez les leçons de ceux qui sont morts brutalement et ne mourrez pas pour rien, c'est ce qu'a déclaré le général à la télévision publique ces derniers jours. La répression s'est poursuivie dimanche, alors que de nouvelles manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, la junte ouvrant même le feu à l'occasion du rassemblement autour des morts de la veille ou près d'un hôpital à Yangon. Une nouvelle fois, l'ONU a sévèrement condamné la situation. L'organisation a dénoncé dans un tweet une violence choquante ainsi que des arrestations massives. Cette violence rend d'autant plus illégitime le coup d'État et aggrave la culpabilité de ses dirigeants, a poursuivi le Haut Commissariat sur le réseau social. Une terrible effusion de sang, aussi pour l'ambassadeur américain en Birmanie, Thomas Vadja, selon qui les Birmans ont été clairs, ils ne veulent plus vivre sous un régime militaire. La délégation de l'Union européenne dans le pays a évoqué de son côté un jour de terreur et de déshonneur. Mais la junte conserve des soutiens solides en Asie. Il y a 8 pays qui les soutiennent, hein, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Vietnam, le Laos et la Thaïlande. Ils ont envoyé des représentants à l'occasion de la grande parade militaire ce samedi. Bref, autant vous dire que la répression va continuer. Et pendant ce temps-là, Aung San Suu Kyi est encore assignée à résidence. On parle de tout à fait autre chose et de choses beaucoup plus réjouissantes dans un instant. On écoute d'abord les Ogs de Barbac, le morceau c'est Mon Pays.
C'est la belle vie, y'a du soleil et des canards. Et même quand y'a de la pluie, on dit oh ça c'est bon pour le navet noir. J'ai des arbres, par milliers des fleurs et la mer n'est jamais loin. J'y amène nos cousines et sœurs, l'océan et notre jardin.
Mon quartier c'est mieux qu'un pays, c'est un monde à lui tout seul. À 100 mètres j'ai l'Algérie, des nomades, tziganes ou peuls. Pas de tradition millénaire, en crasse rigide et frileuse. La culture révolutionnaire du métissage en musique heureuse. Je te chambre pour la danse,
je te chambre pour le geste.
Je te chambre pour que ça balance,
je te chambre pour le reste.
On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays on est modeste.
Et mon voisin roule ses R et tu trouves ça très rigolo. Mais le tien sonne la misère qui déroule dans le métro. On dit où abandonnée. Si Paris était capitale, elle serait seule des paumés, des crèves, la faille qui ont que dalle.
Et si va, on va entraver, je vais t'apprendre notre patois. C'est la langue de la cité, c'est la chambre des gens d'en bas. Prends ta gova et fais-toi saisir, je te loge pour pas enlever. Tu voulais visiter Agadir, c'est ton sera welcome au quartier. Je te chambre pour la danse,
je te chambre pour le geste,
je te chambre pour que ça balance,
je te chambre pour le reste.
On chante pour la danse, on chante pour le geste, on chante pour que ça balance. Tant pis, on est modeste.
País, la pulido vido y a los soleil, lo feche grâce et qu'applausus tu m'a pulido, me fa venir tout coquinas.
Nos quartiers, c'est tous les pays, nos pays, c'est le monde entier. On partage la belle vie, pour les frontières, pas le quartier.
País, la pulido vido y a los soleil, lo feche grâce.
On partage la belle vie, pour les frontières, pas le quartier.
On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, on chante aussi pour le reste. On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays, on est modeste.
Y'a pas de quartier, y'a pas de frontières, y'a pas de quartier pour les frontières.
On achète avec nos petits coups.
Allez, tous ensemble, ça fait comme ça.
On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, on chante aussi pour le reste. On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays, on est modeste.
Les Ogres de Barbac, mon pays, de retour en plateau avec Marie. Alors Marie, tu as été enseignante dans une école Montessori, c'était du côté de Lyon, c'est ça?
C'est ça, c'était à l'école Montessori de Lyon.
Combien de temps?
2 ans et demi.
Alors, on a une vague idée, hein, c'est sûr, mais est-ce que tu peux nous rappeler, nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qu'est la pédagogie Montessori et qui est Maria Montessori aussi?
Alors, Maria Montessori, c'est une pédagogue italienne du début du siècle, qui est née au début du siècle et qui a mis en place donc la pédagogie Montessori, qui faisait partie d'un mouvement qui s'appelle les écoles nouvelles. Donc, il y a eu beaucoup d'autres pédagogues à cette période qui ont repensé un petit peu les façons d'enseigner. La pédagogie Montessori, disons que c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Donc disons que moi je suis spécialiste, je suis formée sur le 6-12, le 6-12 ans, mais elle a commencé avec le 3-6. Donc elle a commencé en observant des enfants qu'on lui avait confiés et a remarqué des périodes sensibles à certaines notions, la répétition, la ritualisation. Elle a commencé à se rendre compte qu'il y avait dans le développement des enfants différents stades. Et elle a délimité différentes périodes sensibles en fonction des âges des enfants. Et c'est là-dessus qu'elle a construit une pédagogie qui était adaptée aux caractéristiques qui ressortaient le plus de ces différents âges, en fait.
En fait, c'est 0-3 ans, 3 ans, 6 ans, c'est ça, elle a catégorifié un peu comme ça, quoi.
Oui, disons que dans la pédagogie Montessori, il y a différentes classes. Donc il y a le 0-3, donc l'enfant de 0 à 3 ans. D'ailleurs, il y a des formations pour être formé en 0-3. Il y a le 3-6 ans, qui correspond à l'école maternelle. Et le 6-12 ans, c'est un an de plus que l'école primaire classique, mais ça correspond donc au système classique. Et donc pendant ces 3 ans ou ces 5 ans, les élèves gardent normalement le même éducateur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui changent dans la pédagogie, mais notamment les mots aussi, les mots qu'on emploie, on ne dit pas professeur, on dit éducateur ou guide. C'est vraiment l'idée de redéfinir le rôle de la personne qui enseigne, entre guillemets, puisque ce n'est pas la même façon de faire que dans le système classique. Alors, c'est pas la même approche.
On va rentrer plus dans le détail juste après, mais la question peut paraître bateau, mais est-ce qu'on devient prof, enseignant, guide, je sais pas, comme tu le disais, donc éducateur, dans une école Montessori, est-ce que c'est le même parcours qu'un prof, je dirais, lambda ?
Pas du tout, parce que Montessori, c'est des écoles qui sont hors contrat, ça veut dire qu'il n'y a aucune subvention de l'État. Donc, elles sont complètement autofinancées. Ben, en général, hein, c'est les parents. Hein, c'est le prix que les parents vont payer pour faire tourner l'école. Donc, forcément, c'est pas du tout le même parcours. C'est complètement libre, en fait. Et ça dépend donc de l'association Montessori, l'ISMM, Institut supérieur. Institut supérieur. Je ne sais plus, de Maria Montessori, voilà, ISMM, oui, Institut supérieur de Maria Montessori, donc c'est une association, et c'est eux qui organisent les formations qui ont, voilà, il y a différents formats de formation, il y en a, pour le 6-12 par exemple, moi la formation que j'ai faite c'était sur une année civile, enfin une année scolaire. Et donc, après, il y a aussi à Archamps, Benoît Dubuc, c'est un formateur canadien qui fait ça depuis encore plus longtemps que l'ISMM de Montpellier. Et là, par contre, ce n'est pas le même format, c'est sur 2 ans et c'est pendant les vacances scolaires. Mais ça revient à peu près au même nombre d'heures de formation, sauf que les personnes qui sont en formation là-bas, elles sont en poste souvent, ce qui est quand même assez bien parce que la théorie, elles peuvent l'appliquer dans la classe pendant qu'elles travaillent, donc c'est assez complémentaire.
Alors tu l'as abordé, hein, on va casser le cliché tout de suite. Évidemment, comme les écoles Montessori ne sont pas contractuelles avec l'État, tout est à la charge, donc voilà, les locaux, etc. Et c'est ça qui explique que c'est aussi cher.
Exactement.
Et c'est pas vos salaires.
Non, souvent les éducateurs sont payés, on va dire, au ras des pâquerettes.
On l'inspire, d'accord.
Bah, disons que suivant une convention collective qui fixe les salaires... presque au SMIC en fait. Donc c'est pas du tout les éducateurs qui sont très très bien payés, ce qui serait quand même une bonne chose parce que c'est beaucoup beaucoup d'investissement. C'est pas, enfin bon, quand on est prof à l'éducation nationale, j'imagine aussi, mais disons que là on est vraiment obligé de s'investir beaucoup parce qu'il y a beaucoup à construire, surtout en 6-12 ans, donc voilà, c'est rare d'être à 35 heures, C'est même impossible en fait.
Alors pour revenir justement à cette pédagogie, posons la base, l'enfant en fait devient maître de son apprentissage, c'est ça ?
Alors il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, oui, on se base sur l'enfant, c'est pas l'enfant qui s'adapte à un système d'organisation donné. C'est nous qui nous adaptons à l'enfant et la pédagogie est vraiment pensée pour s'adapter à l'enfant puisqu'elle est basée sur des périodes sensibles qui correspondent vraiment à son développement. Donc par exemple le 6-12, pour donner un exemple très concret, c'est vraiment une caractéristique importante, c'est l'instinct grégaire. Les enfants ont vraiment besoin d'être avec leur père, d'être ensemble, de collaborer, de travailler ensemble. C'est ça qui donne du sens. Ils sont à la recherche de ça. Ils construisent en fait finalement leur sens social. Ils ont beaucoup beaucoup à apprendre là-dedans. Alors qu'en 3-6, ils sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes puisqu'ils sont en train de se construire. Alors qu'en 6-12, les bases sont là et ils sont prêts à s'ouvrir sur le monde, à s'ouvrir aux autres et ils demandent que ça. Donc du coup, la manière dont la pédagogie est pensée, alors je prends l'exemple des mathématiques parce que c'est vrai que je trouve que c'est assez clair. Le matériel est fait pour être utilisé à plusieurs. Donc chacun a son rôle. Il y en a un qui va distribuer, il y en a un qui va faire la banque, il y en a un qui va noter sur le papier, ça va être l'écrivain. Et donc chacun a son rôle, donc chacun a sa place et on interagit, mais en cohésion puisque chacun sait ce qu'il doit faire. Et tout le matériel que Maria Montessori a pensé, surtout en mathématiques, et penser dans cette idée de communauté, de travailler ensemble, de se distribuer, de se partager les rôles. Donc c'est en ça qu'elle a vraiment pensé à l'individualité des enfants dans la manière de créer la pédagogie. Après, oui, évidemment, partir de l'enfant, partir de ce qu'il aimerait, tout ça, c'est important. Après, c'est pas toujours possible dans la réalité, puisque, par exemple, normalement, une classe de 6-12, dans la pédagogie, comme Maria Montessori l'a pensé à l'époque, c'était 36 enfants et un ou deux éducateurs.
36 enfants ?
Voilà.
Mais waouh, wow. Enfin, je suis éberlué parce que 36 enfants avec des rythmes différents, avec un ou deux éducateurs, je me dis, mais là, il faut une attention absolument incroyable. Et justement, à partir du moment où on pense à l'enfant lui-même, comment on fait pour avoir autant, enfin, pour homogénéiser tout ça, je dirais ?
Eh bien, l'idée, c'est que le dispositif de classe qu'elle a mis en place, à travers plein de petites protocoles de classe, fait que ça roule tout seul, que les enfants s'aident les uns les autres, que c'est une espèce de machine un peu harmonieuse, une machine sociale qui fonctionnerait bien comme ça. Après, ça c'est la pratique, ça c'est la théorie. Quand une classe est posée, ça veut dire qu'il y a le même éducateur depuis des années, les mêmes enfants depuis des années, qu'on intègre petit à petit des enfants qui viennent déjà d'écoles Montessori 3-6. Mmh. Voilà, ça peut rouler. Je pense qu'il y a des écoles aux États-Unis où vraiment ça roule très bien comme ça. Hein. Mais nous, en France, on innove. Ça fait pas très longtemps qu'on est dans la pédagogie Montessori, qu'on a des écoles. Il y a beaucoup d'éducateurs qui vont, qui viennent. Enfin, cet équilibre-là, moi, je pense qu'il est quand même assez rare au stade où on en est de la pédagogie Montessori qui est en train de se construire. Donc voilà, donc on est un peu... voilà, il y a un idéal qui serait possible, mais voilà, il y a du travail encore.
C'est justement parce que c'est neuf que les pédagogies alternatives, hein, type Montessori, il y en a d'autres, ne sont pas plus utilisées dans notre système éducationnel aujourd'hui. C'est parce que c'est tout jeune en France.
Alors, il y a beaucoup de gens, oui, qui disent « Oui, mais bon, voilà, Montessori, c'est vrai, c'est cher, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, autant... » Enfin voilà, c'est les enfants qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens, ils peuvent pas y avoir accès. Alors moi, ce que je réponds souvent à ça, c'est que ok, mais le fait que ça existe, ça inspire. Parce qu'on en parle, parce qu'on en entend parler, parce qu'on a un collègue qui a mis son enfant dans l'école. Et du coup, ça crée de la réflexion, ça fait que bah, les gens se questionnent plus, vont plus regarder, faire des recherches sur Internet, monter des blogs. Et que du coup, bah, ça essaime et petit à petit, ça se diffuse et ça se fait connaître. Et il y a des conséquences sur les gens qui sont dans l'enseignement, qui cherchent des façons de faire autrement et qui trouvent des réponses grâce à ça.
On avait reçu Nathalie, qui est directrice et instite à Vébron, on la réécoute tout à l'heure. Elle utilise des manières d'enseigner qui vont dans ce sens-là. C'est plutôt dire que ça évolue quand même.
Oui, moi je pense que ça évolue.
On est sur le bon chemin, quoi.
Bah, oui, je pense, j'espère. Après, ben, c'est toujours... oui, c'est vrai que financièrement, c'est compliqué pour ces écoles. Et ben, c'est vrai que si l'État aidait, je pense que ça soulagerait beaucoup.
On les sent quand même un peu réticents à ce genre de pédagogie. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ben, disons que ça demande beaucoup de changements. Mmh. Et le changement, c'est pas confortable. Et bon, après, il y a la pédagogie, puis il y a la réalité de l'application de cette pédagogie. Et ce n'est pas forcément voilà, une recette. C'est un ensemble de choses. Voilà. Alors,